France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin. Au programme du 5-6, musique et symphonie de goût. Une spécialiste de pêche nous raconte comment ça se passe chez elle dans l'île de Pâques. Elle est dans les chroniques littorales et pour compléter le menu, il y aura à 5h45 l'invité déjà debout, maraîcher en Côte d'Or, en pleine saison des carottes et des radis noirs. Et puis Tanguy Pastureau nous fait rire avec la Star Academy. Mathieu Conquet est dans ça et nous raconte le nouvel album d'Aya Nakamura alors que le grand reportage se penche sur la tournée vertueuse du groupe de musique Terre Rare. Enfin, nourriture spirituelle, musique à nos oreilles, il sera question de notre terre vivante dans Café Philo juste avant 6h. Vous avez le menu et je vous accompagne jusqu'à 9h.
France Inter.
Et le premier journal est présenté par Anne-Sophie Balbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Marion. Bonjour à tous.
Que s'est-il exactement passé hier à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie?
Alors que l'activité militaire israélienne s'intensifie ces derniers jours en territoire occupé, une vidéo tournée par une chaîne de télévision égyptienne et l'AFP semble montrer au moins deux Palestiniens victimes d'une exécution sommaire. Les images circulent très largement sur Internet. À Jérusalem, les explications de notre correspondant Luc Alazo.
Sur ces images, on distingue clairement deux jeunes hommes sortir à genoux d'un entrepôt, les mains en l'air, encerclés par plusieurs soldats israéliens. Ils semblent se rendre sans opposer de résistance. On les voit ensuite allongés au sol par les militaires, puis abattus à bout portant par plusieurs rafales d'armes automatiques. Leur identité ont été confirmées. Muntasar Abdullah, 26 ans, Youssef Assassa, 37 ans. Leurs corps sont pour le moment retenus par les autorités israéliennes. Selon une source contactée sur place, les deux hommes pourraient appartenir aux brigades de Jenin, une milice palestinienne constituée dans le camp de réfugiés de Jenin avant que celui-ci ne soit vidé de ses habitants par l'armée israélienne en février 2025. Les services de communication de l'autorité palestinienne ont immédiatement condamné ce qu'ils dénoncent comme, je cite, « une exécution sommaire de sang-froid en violation évidente du droit international humanitaire ». De son côté, l'armée israélienne a annoncé qu'un examen des événements était en cours et serait transmis aux autorités compétentes, alors que le ministre de la Sécurité d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a quant à lui félicité ces hommes pour avoir tué, je cite, « des terroristes ».
Donald Trump a annoncé cette nuit le décès d'un des deux soldats de la garde nationale attaqués à Washington mercredi. La militaire Sarah Beckstrom, 20 ans. L'autre soldat qui s'est fait tirer dessus est lui toujours dans un état très grave. Quant au suspect, il est hospitalisé sous haute surveillance. Il s'agit d'un Afghan de 29 ans. En conséquence, le président américain dit vouloir réexaminer les cartes vertes attribuées aux ressortissants de 19 pays jugés sensibles, dont l'Afghanistan. Les magasins et les marchés pour la plupart fermés, les rues quasi désertes dans la capitale de Guinée-Bissau en Afrique de l'Ouest après le coup d'État. La junte qui a pris le pouvoir a nommé un général à la tête du pays pour assurer la transition. Le président destitué de son côté a rejoint le Sénégal. L'opposition dénonce un putsch orchestré par le dirigeant sortant pour empêcher une victoire à la présidentielle. Les élections ont été suspendues et ce matin, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce une violation des principes démocratiques. Au moins 94 morts dans l'incendie des gratte-ciels résidentiels de Hong Kong. C'est le dernier bilan alors que les secours sont mobilisés pour s'assurer que le feu ne reprenne pas. Un très grand nombre de personnes restent portées disparues.
Il y aura bien un service militaire volontaire en France.
Emmanuel Macron l'a confirmé hier lors d'un discours à Vars en Isère. Le dispositif sera d'une durée de 10 mois uniquement sur le territoire national. 3000 jeunes hommes et femmes âgés de 18-19 ans seront choisis à l'été 2026 avec un objectif de 50 000 en 2035. Ils seront rémunérés 800 euros par mois minimum, logés, nourris et équipés. L'Assemblée nationale donne son feu vert à la nationalisation d'ArcelorMittal. La proposition de la France insoumise a été adoptée en première lecture avec le soutien des groupes de gauche. 127 députés ont voté pour, 41 contre. Le Rassemblement national s'est abstenu. Une première étape importante pour la sidérurgie, réagit Reynald de Quachebeur, délégué syndical central CGT ArcelorMittal France.
On se bat depuis un an et demi, deux ans pour faire avancer ce projet de nationalisation parce que
On se rend compte que Mittal se désengage de la France et de l'Europe en général, je dirais. Donc pour nous, oui, c'est une première victoire. Bon, on n'a pas gagné la guerre, hein, il y a encore beaucoup de travail. Mais bon, ça permet au moins de voir qu'on ne s'est pas battu pour rien, que ce qu'on dit, autant on nous prenait un petit peu pour des fous au début, et maintenant j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui se fait, que ce soit en France, mais même au niveau des politiques, hein, que justement, oui, il faut sauver la sidérurgie française si on veut sauver notre industrie, et qu'on n'est pas complètement décalé avec ce qu'on dit, et puis les combats qu'on mène depuis 2 ans.
Un propos recueilli par Sonia Gobry, et on l'entendait, c'est une victoire, mais la guerre n'est pas gagnée. En effet, le texte a un avenir incertain puisqu'il va devoir passer par la case Sénat, à majorité de droite. Le gouvernement, lui, est opposé à la mesure, estimant que la bataille se joue à l'échelle européenne. L'avenir de Brandt, toujours en suspens, aucun repreneur n'a déposé d'offres suffisamment abouties. Des élus locaux, des parlementaires, des représentants de collectivités appellent le Premier ministre à se saisir du dossier et demandent que les propositions de reprise soient remises plus tard que la date initialement prévue, c'était ce vendredi à minuit. Le fabricant d'électroménagers qui emploie quelques 750 personnes en France a été placé en redressement judiciaire en octobre.
5h05 sur France Inter, c'est une mesure voulue par le gouvernement, mais dénoncée par les syndicats.
Le Louvre va augmenter le prix de son billet de 45% pour ses ressortissants hors espace économique européen. Les Américains, les Anglais, les Chinois sont les premiers concernés. À partir du 14 janvier, Victor Mattel, le ticket d'entrée passera à 32 euros, 10 euros de plus qu'actuellement.
Puisque le billet d'entrée était déjà passé début 2024 de 17 à 22 euros pour l'ensemble des visiteurs, cette nouvelle augmentation qui concerne uniquement les touristes provenant d'autres pays que ceux de l'espace économique européen n'est pas liée au récent cambriolage du Louvre. La hausse des tarifs avait été proposée en début d'année par la ministre de la Culture, Rachida Dati, assurait alors vouloir être innovante après l'alerte lancée par la présidente du musée sur la vétusté de l'établissement. Qui espère, avec cette mesure, voir ses ressources augmenter de 15 à 20 millions d'euros par an. 4 autres grands lieux culturels ont aussi décidé d'une hausse du tarif de leur billet d'entrée à partir du 14 janvier. Le château de Versailles, le château de Chambord, l'opéra de Paris et toujours dans la capitale, la Sainte-Chapelle gérée par le Centre des Monuments Nationaux.
Dans les transports d'Île-de-France, nouvelle hausse du prix du pass Navigo, 2 euros de plus à partir de janvier, 90,80 euros par mois. Le ticket à l'unité pour le métro, le train, le RER passera à 2,55 € contre 2,50 € actuellement. En football, 5e journée de Ligue Europa. Hier soir, Lyon s'est imposé 6-0 face au Maccabi Tel Aviv, grâce notamment à Corentin Tolisso, auteur du premier triplé de sa carrière. L'OL est désormais leader du classement de la phase de Ligue. Lille s'est aussi offert une large victoire, 4-0 face au Dynamo Zagreb. En revanche, défaite de Nice 3-0 à Porto. Et puis le génie suisse du ski, Marco Odermatt, a remporté le premier Super G de l'hiver à Copper Mountain dans le Colorado. Le skieur décroche à 28 ans sa 47e victoire en Coupe du Monde.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbir. Vous revenez dans un peu moins d'une demi-heure, Anne-Sophie, pour un nouveau point sur l'actu. Il est 5h08.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Un temps perturbé aujourd'hui, Céline Dacosta.
Un temps bien maussade pour ce vendredi matin sur les deux tiers nord du pays, avec un ciel chargé, des averses parfois soutenues entre les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, les Hauts-de-France et les Ardennes. Prudence dans le Val-de-Saône et en Alsace, où les brouillards pourraient être givrants. Pour la moitié sud, ce sera plus calme, un temps sec et beaucoup de nuages, mais les éclaircies seront encore présentes entre les Pyrénées et les Alpes. Pour les températures, le matin, 2 à 6 degrés pour la plupart des régions. Plus de vent en Bretagne, où on atteindra par endroits les 10 degrés. L'après-midi, nette remontée du thermomètre, 7 à 13 degrés, 16 même près de l'Atlantique et en Méditerranée, avec un ciel qui va rester gris sur une large bande centrale. Le sud conservera du soleil et les éclaircies reviendront près de la Manche, poussées par un vent d'ouest qui sera plus présent.
La météo de Céline Dacosta.
France Inter. Marion Lourd.
5h09 sur France Inter à suivre. Nous ferons un tour en pirogue dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout, lui, se lève tôt pour cultiver carottes et radis noirs. Il nous racontera ça à 6h moins le quart. La destruction créatrice, ce concept économique est passé dans le langage courant. Vous allez tout comprendre grâce à la chronique d'où ça sort. Et puis Tanguy Pastureau a regardé la Starac et il nous racontera ça à 5h25. Mais avant tout ça, à la sortie de la douche, Splash, c'est le titre de l'autrice-compositrice Mira. Bon réveil sur France Inter.
debout, j'adore ta soirée. Elle fait les tresses le week-end. Bon Dieu, là, pas tout seul. Splash dans tes termes, cache dans la team. Sweet pussy, god damn, ça me fascine. Oui, ça me plaît. Elle fait le chien en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps. Elle est fraîche de la tête au hoc. Elle sent le parfum Sephora. Douce comme un Ferrero. C'est cute, c'est délicieux. La mille le top en coquillage. Trop fraîche, pas de maquillage. Son petit crop top rétro, c'est trop lolo. Bébé big brains, gros lolo. Son body, c'est pas un film d'auteur. C'est un blockbuster. Dans tes termes, cache dans le team. Sweet pussy, god damn, ça me fascine. Oui, ça me plaît. Elle fait le chien en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps. Que du chata, baby, pas de bachata. Que du chata, baby, pas
il faut
de bachata.
Je le fais.
Que du chata, baby, pas de bachata.
Il faut te marier,
que
je
du
le
chata,
fais.
Dans le team, sweet pussy. God damn, ça me fascine. Oui, ça me plaît. Elle fait le chien en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps.
Elle a une skincare, ma soeur, une peau.
Splash de Mira dans la playlist France Inter et elle sera en concert à La Cigale le 22 janvier à Paris. 5h12 sur Inter, les chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et comme tous les vendredis, c'est un portrait que vous nous proposez ce matin, José-Emmanuel, celui d'une spécialiste de la pêche qui nous vient de très loin.
En la personne de Kenatea Chavez-Hay qui est Rapa Nui. Bonjour,
bonjour
Kenatea.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire Rapa Nui ?
Rapa Nui, c'est le gentilé des personnes originaires de l'île de Pâques. Donc Rapa Nui, le nom originaire de l'île de Pâques.
Alors donc le Chili ?
Tout à fait, c'est une ancienne colonie du Chili.
Voilà, donc on peut aussi parler espagnol un poquito.
Un poquito.
Voilà. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous représentez la mer, vous représentez l'océan et vous représentez France Terre de Pêche.
Tout à fait, France Terre de Pêche, c'est plus de 5500 marins pêcheurs embarqués, donc au niveau de la France hexagonale, et plus de 1000 entreprises de pêche.
Alors vous, je vous posais la question, quand on vient de l'île de Pâques, qu'est-ce que ça veut dire la mer ?
Moi, j'ai grandi en Polynésie, donc effectivement, j'ai toujours vu cette mer, cet horizon comme une mer nourricière. Elle permettait de nous approvisionner, de nous alimenter. Et donc, j'ai très tôt, dès mon plus jeune âge, compris la valeur qu'avait la mer, mais aussi la nécessité de la préserver, de préserver les ressources.
Préserver les ressources et puis la rue de vie des pêcheurs, des gens de mer.
Oui, marin-pêcheur, ça n'a jamais été facile d'ailleurs. C'est un métier de passion, mais aussi de liberté.
Et vous, venant de l'île de Pâques, on peut dire que dans le monde entier, il y a des millions de gens qui ne vivent que grâce à la pêche.
Absolument. Et puis aussi, la pêche permet d'alimenter un bon nombre de la population mondiale. Au niveau français, nous, chez France Terre de Pêche, on a une production qui permet d'alimenter plus de 10 millions de consommateurs français. Donc, c'est pas rien. Pour de nombreux foyers dans le monde, c'est la première source de protéines animales. Donc on a besoin de préserver ces métiers.
Vous qui êtes une fille de la mer, l'île de Pâques, et c'est aussi la Polynésie, vous avez vécu là-bas. Quelle est la différence entre, pour vous entre bon, ces espaces lointains du Pacifique et puis nous, entourés par l'Atlantique, la Méditerranée, la Manche, la mer du Nord ?
Alors effectivement, ça n'a rien à voir. La Polynésie, on est sur des zones économiques exclusives et des territoires maritimes qui sont extrêmement vastes. Si je parle de la Polynésie française, c'est un territoire maritime qui s'étend sur plus de 5 millions de kilomètres carrés, là où en France, les zones maritimes et les zones économiques exclusives sont beaucoup plus réduites. Donc ça change effectivement dans la façon qu'on a de pêcher, de oui. Se nourrir et aussi dans la composition des flottes de pêche.
On parle toujours d'un esprit, hein, l'esprit d'équipage, la solidarité, l'esprit marin. Vous le retrouvez ici,
par rapport à la Polynésie ?
Bien sûr, je le retrouve dans l'Hexagone, les marins pêcheurs. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en métropole, en Outre-mer et je pense dans tous les pays du monde. C'est aussi une des valeurs qui attire à la pêche aujourd'hui. On se destine à ces métiers-là aussi pour retrouver cet esprit d'équipage et de camaraderie qui est extrêmement important.
Ça vous manque de temps en temps de ne pas mettre un pied sur un bateau ?
Embarquer, c'est une autre vie, en fait.
La différence entre ces bateaux à balancier de Polynésie et de l'île de Pâques, les bateaux qu'on a ici ?
Alors, ça n'a rien à voir, effectivement. Ouais. Hein. À l'île de Pâques, en Polynésie, on pêche très différemment qu'en métropole. Et selon les façades aussi, il y a de très grandes différences. Mais cette diversité fait notre richesse. Après, là-bas, c'est vrai qu'on a... Oui, on pêche en pirogue, on pêche sur des petites barques, mais on a aussi des plus gros navires, de la pêche thonnière, de la pêche hauturière.
Kenatea Chavez, hey, France Terre de Pêche, vous avez lancé un livre blanc qu'on va bientôt retrouver.
Oui, tout à fait. On vient de publier notre livre blanc de la durabilité. Pour rappeler ce qu'est la durabilité, c'est pas qu'un enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu économique et social. On explique aussi que la pêche, si c'est un métier en tension, c'est aussi un métier d'avenir qui est trop méconnu. Et donc on appelle à ce qu'il y ait une meilleure connaissance scientifique parce que la durabilité évolue au rythme de la connaissance.
Merci à vous, Kenatea Chavez. On va bientôt retrouver le livre blanc de France Terre de Pêche. Et nous, on se salue en polynésien. Hein, Maruru Yaurana.
Maruru Oe Yaurana.
Un site internet, terredepêche.fr. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Emmanuel Lamarque. Maruru, il est 5h16.
Le 5-6. Sur France Inter.
Elle est une de la presse ce matin, sont extrêmement variées. Il est encore question du service militaire. Nouvelle mouture lancée hier par Emmanuel Macron. Service national, Macron joue du clairon, annonce Libération. Gros titre, imprimé sur la photo de nombreux jeunes gens et jeunes filles, tenues camouflage et visage fermé. Et Libé détaille, le président a annoncé jeudi la création de ce service national volontaire à partir de l'été 2026. Il devrait concerner 10 000 jeunes d'ici 5 ans. Les mêmes jeunes gens, dézoomés en une du Figaro, et devant eux, le chef de l'État à la tribune. Macron lance un nouveau service national volontaire pour la jeunesse, titre sobrement le journal. Un jeune homme plus souriant, tout en haut de la une du Figaro, mèche rebelle et sweatshirt gris, typique de la tech, c'est Sam Altman, patron d'OpenAI et la maison mère de ChatGPT, car l'intelligence artificielle fête ses 3 ans et elle a, c'est le titre, révolutionné la tech américaine. Le service national et cet anniversaire intéressent aussi beaucoup les échos. Il y a 3 ans qui ont changé le monde, titre carrément le quotidien économique. Chiffre à l'appui, le robot conversationnel est utilisé chaque semaine par 800 millions de personnes dans le monde. La start-up est devenue l'entreprise non cotée la plus valorisée et les scientifiques s'alarment des conséquences de l'utilisation de ChatGPT pour notre cerveau. Ceux de Dominique Seux et Thomas Porcher se portent encore très bien. Ils célébreront cet anniversaire à 7h45 dans le débat éco. Miracle de la science, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France à propos de l'ARN messager utilisé notamment dans les vaccins anti-Covid. La révolution, c'est demain. Plusieurs maladies, dont des cancers, pourraient être combattues grâce à cette technologie. Il y a aussi ces sujets qui ne cessent de revenir. La suspension de la réforme des retraites, c'est la une de l'Opinion qui titre sur les vérités dérangeantes, je cite, de l'OCDE. La une de l'UMA alerte-t-elle encore une fois sur le génocide à Gaza et relaye l'appel de 50 personnalités pour libérer Marwan Barghouti, député palestinien emprisonné depuis 20 ans. Deux bonnes nouvelles aussi dans vos journaux. La une de la Croix, l'hébergement citoyen résiste 10 ans après la vague de solidarité des Français envers les migrants. Et puis Antoine Dupont revient, le demi de mêlée du 15 de France est guéri 9 mois après sa blessure au genou, retour précieux pour Toulouse et les Bleus à la une de l'Équipe. C'est un Dupont combatif en pleine course, ballon à la main, biscotto qui nous regarde les yeux dans les yeux. Comment une innovation remplace les anciennes technologies et peut rendre obsolètes certaines activités et certains emplois, tout en créant d'autres? Ça s'appelle la destruction créatrice. Et il en était question hier dans Zoom Zoom Zen, l'émission de Mathieu Noël. Cyril Lacarrière, la destruction créatrice, d'où ça sort?
Eh bien, imaginez un économiste qui parle de croissance comme d'un organisme vivant. La croissance, elle respire, elle mute, elle s'adapte. C'est un chercheur qui se demande pourquoi certains pays s'enrichissent et d'autres stagnent. Comment l'innovation change nos vies et nos sociétés. Pourquoi l'État et le marché doivent parfois marcher main dans la main. Je vous présente, eh bien, notre invité, une rosta. On le présente parfois comme l'économiste français le plus cité au monde. Voici donc Philippe Aguillon. C'est temps... 1956, qu'est né le bonhomme, et attention, dans sa famille, il y a des communistes. Notez qu'à l'époque, c'était une espèce moins rare qu'aujourd'hui. Sa maman va devenir une figure de la mode française. Gabi Aguillon a fondé la marque Chloé. Mais notre invité, lui, la mode, il s'en moque. Ce qu'il aime, c'est l'économie. Bon.
Et alors, le parcours de Philippe Aguillon.
Lycée Henri IV, école normale sup, mathématiques appliquées aux sciences économiques à Paris 1, un DEA et un doctorat en passant. Et pour finir, de faire briller le CV, un PhD en économie à l'université de Harvard. C'est smart. Ouais. Philippe Aguillon, c'est celui qui va remettre au goût du jour la destruction créatrice, un concept forgé par Joseph Schumpeter au milieu du XXe, et donc dont on va parler dans cette émission. Et puis Philippe Aguillon va aussi se muer en conseil pour les dirigeants du monde, dont le président Macron. Alors d'où ça sort, un prix Nobel d'économie? Eh bien déjà un peu de là, et il va avoir beaucoup à nous en dire.
C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël du lundi au vendredi à partir de 16h. Et ils zoomeront tout à l'heure sur la désinformation climatique. Dans un instant, l'humour de Tanguy Pastureau qui maltraite une émission musicale. Mais tout de suite, c'est un autre genre de musique qui vient de rentrer en playlist Inter. Joshua IDN évoque ses souvenirs. It always was.
With a little bit of luck and a handful of courage, we will make it through the night and out to where the sun is, where the love is. Manifesting with my mates, bright faced and beaming, backseat in Benji's Mazda. The world is loud but we sing louder. Pistol fingers through the window, my joy is a whistle, loud in its belief. After this something good is coming. My losses, they've taught me how to win. Maybe the reason I ain't that good at swimming, with wings, and the answer's right here in our hands. It always was. It's all down to us, and that much I trust.
De l'artiste Joshua IDN, titre sorti cette année. Vous pouvez aller le voir à Lyon, au Transborder, le 6 décembre prochain.
France Inter.
Et à 5h23, Tanguy Pastureau maltraite l'info et surtout la Star Academy qui a repris ce mois-ci.
J'ai rien contre Télé Loisirs, mais c'est très très ennuyeux. 70% des gens qui lisent ce site ne se réveillent jamais. Ce sont leurs voisins qui les découvrent 7 mois plus tard avec encore sur l'ordi le résumé de l'épisode 2080 Demain nous appartient. J'ai quand même trouvé un article intéressant. Vous savez que sur France 3, il y a les meurtres A. Hein, oui, une ville, un meurtre. Ils ont commencé par les grandes villes et forcément au bout d'un moment, il n'y en avait plus. Donc cette année, il y a eu meurtre à Montauban et meurtre à Meaux. Le coupable était un Brie trophée. Gisèle, 81 ans, a soulevé sa cloche à fromage. Le Brie bourré de petit verre lui a sauté à la gueule et a dévoré Gisèle. En tout cas, moi, c'est ça que j'aurais filmé, ce qui bon explique pitch. Pourquoi je ne perce pas dans le domaine de la fiction. Je trouve qu'on devrait mettre à l'antenne de la gaieté. Nagui participe à ça avec son jeu du soir. On chante, on danse, parfois ça chante faux. Nagui serre les fesses, il serre souvent les fesses, ça lui fait les fesses les plus musclées d'Île-de-France. Il n'y a plus un mototaxi qui veut de lui parce que les muscles de ses fesses percent la selle. Un jour, il a tué un cheval avec les muscles de ses fesses juste en montant dessus. Ça vient de là, cette rumeur absurde. RIP, princesse des lilas. On pense à toi au paradis des chevaux. Passe le bonjour à Crin Blanc et à l'étalon noir. Pas de racisme. Récemment, j'ai eu envie de joie. J'ai mis le prime de la Starac sur TF1. C'était super. Il y avait de jeunes chanteurs en devenir et des artistes confirmés.
Oui.
J'en connaissais pas, hein. En ressenti, j'ai eu l'impression d'avoir 94 ans. Par réflexe, j'ai mis un plaid sur mes genoux et j'ai acheté en ligne un chat pour le foutre sur moi. Sur ce prime, il y avait Zaoui, qui n'est pas une phrase d'enthousiasme de quelqu'un qui zozote, mais l'ancien chanteur de Thérapie Taxi. Je savais même pas que c'était un groupe. Je pensais que Thérapie Taxi, il s'agissait d'une compagnie de taxi avec des psys au volant. Hein, si bien que sur une course de 25 minutes, 23 auraient été consacrés à la relation avec votre mère. En fait, Thérapie Taxi a eu un tube, intitulé Hit Sale, que Zaoui a interprété avec Léo, un candidat. Télé Loisirs a défini cette prestation comme étant, je cite, plutôt réussie. Hein, ils font des articles sur des actrices des séries nulles de TF1 enceintes, mais ils se sont pris pour Télérama. Au départ, les paroles de Hit Sale étaient « T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne ». Voilà, on n'est pas sûr de Léo Ferré. Et là, Zaoui, face à Léo, décide de changer les paroles. Il dit, je cite, « T'es 100 fois trop bon, du coup ». Et il ajoute, car il est sans doute drogué comme tous les saltimbanques, « Tu es magnifique, Léo, tu es très très beau en vrai, waouh ». Moi, si Daniel Morin me dit ça, il serait la preuve qu'il a enfin corrigé sa myopie. Je dirais « Merci Daniel, je suis content de te plaire ». Mais Daniel et moi sommes à l'ancienne, des boomers écœurants qui ont comme seul repère les bas-fonds et la sexualité la moins avouable. Parce que Zaoui s'est fait clasher sur les réseaux par le public de la Starac, les très jeunes. Zaoui a 30 ans. Pour ces gens-là, c'est l'équivalent de Michel Barnier. Ils ont trouvé ça déplacé, pas bien. Le mot « gênance » a été employé. N.1 sur X écrit « Zaoui est tombé love de Léo, ça me fume ». Balthazar écrit sur X « Mais Zaoui, ça va charmer Léo comme as ». J'ai fait traduire ces tweets par le fils de mes voisins qui a 14 ans et qui m'a dit « Sérieux frérot, tu vas parler de Léo dans ta radio d'yeuve ?» Zaoui a subi une vague d'incompréhension et d'insultes. Le monde a changé. Il ne faut pas dire à un gars qu'il est beau, ni à une fille, ni à une femme, ni à... D'ailleurs, vous êtes tous laids. Voilà, vous êtes des horreurs. Moi aussi, j'ai envie d'entrer dans les codes de l'époque. Bah, repoussant. Conclusion de l'histoire, parce que tout a eu une fin, même la Starac. On dirait pas comme ça, parce que ça fait 20 ans qu'on nous propose cette merde. Par pitié, donnez-moi les commandes de l'appareil. Zaoui a présenté ses excuses à la jeunesse. Il a fait une vidéo. C'est une sorte de communiqué de presse pour jeunes. Il a dit sur ce type d'événement, je suis stressé. Et quand je suis stressé, je dis ce qui me passe par la tête. J'ai envie de lui répondre, détends-toi, bro. Tu as dit à un chanteur qu'il était beau. Aucun hammam libertin n'a été proposé dans la foulée. Tu n'as pas cherché à le présenter le lendemain à ta famille. Ça va. Moi qui suis tatillon, y compris sur l'élégance, les paroles « t'es 100 fois trop bonne » de la chanson, ça me paraît plus problématique de dire à Léo qu'il est beau. D'autant que Léo lui-même s'est pas roulé par terre en hurlant « quoi ? Je suis beau, mais de quel droit ?» Après ce parcours devant les profs de la Starac, tout de même, vous me réduisez à mon aspect physique. Zaoui, dans sa vidéo, dit « désolé, effectivement, je ne me serais sans doute pas permis de dire ça si c'était une meuf. Je trouve ces jeunes bien trop fragiles. Question, ce sont ces gens-là que possiblement Macron imaginait envoyer se battre en Ukraine. Mon Daniel, cette barbe bien taillée et hautement glamour, mais je ne peux plus le dire. Alors tu me dégoûtes au plus haut point. »
Tanguy Pastureau dans la bande originale de Nagui et Leïla Kaddour. Ils recevront tout à l'heure les actrices Louise Chevillotte et Galatea Bellouji pour le film La Condition en salle le 10 décembre prochain. Dans une poignée de secondes, le journal.
France Inter présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
L'internet russe s'est transformé en goulag numérique pour sa population et en arme de guerre pour le pouvoir, mais est-ce le seul ?
Le code.
Et si, au nom de la souveraineté numérique, l'internet mondial était en train d'exploser ? Ce qu'on va raconter, c'est la fin d'une utopie.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur l'appli Radio France.
5h28 sur France Inter et le voilà tout frais et dispo, il vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour
douché,
Ali Badou.
Bonjour Marion Lourd, ça va bien ?
Au programme aujourd'hui, ça va ?
À 6h20, vous recevrez Jean-Louis Dupré, le président de la Fédération Française des Banques Alimentaires. Banques Alimentaires qui lancent leur collecte ce week-end à 8h moins le quart dans le débat éco. 3 ans de ChatGPT, l'IA va-t-elle être une vraie révolution ? Ce sera le sujet du débat entre Thomas Porcher et Dominique Seux. Il y a 8h20, grand entretien avec l'un de nos grands historiens spécialistes de la politique. Il est professeur émérite à Sciences Po et l'auteur d'un livre important, Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle. Livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Voilà pour le programme, Marion.
Ben oui, merci Ali, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h29. Le journal, Anne-Sophie Balbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Deux fugitifs toujours dans la nature, 24 heures après leur évasion à la maison d'arrêt de Dijon.
Près d'une centaine de policiers sont mobilisés, dont des équipes de chiens pisteurs. Des mandats de recherche ont été lancés. Les deux détenus, âgés de 19 et 32 ans, ont réussi à scier leurs barreaux avant de fuir en utilisant leur drap comme une corde. La prison fait partie des 6 établissements identifiés en France comme nécessitant un plan de sécurisation. Les syndicats dénonce entre autres le balai incessant de drones au-dessus du bâtiment. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, promet de dégager une enveloppe de 6 millions d'euros pour des travaux. Réaction d'Ahmed Saïd du syndicat Force Ouvrière.
Ces 6 millions sont les bienvenus, mais on en demande beaucoup plus. Des moyens technologiques, des moyens humains pour lutter contre les drones. On a su le faire pendant les Jeux Olympiques. Maintenant, on veut le faire pour l'administration pénitentiaire. C'est un manque de personnel, mais aussi un manque d'écoute de la direction. Il nous manque des moyens. Attention, nous arrivons en phase critique. Attention, nous avons fait des découvertes qu'on ne devrait pas découvrir au sein de nos détentions. Et nous attendons des réactions. La sécurisation, elle se fait sur plusieurs échelles. Elle se fait avec des moyens humains et avec du matériel. Des brouilleurs de téléphone, des brouilleurs de drones. C'est toutes sortes de moyens qu'on demande pour pouvoir sécuriser les établissements pénitentiaires.
5 personnes interpellées à Montlouis-sur-Loire, en Indre-et-Loire, soupçonnées d'avoir organisé 2 guet-apens à caractère homophobe. Parmi elles, 3 mineurs. Les 2 majeurs seront jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Selon les informations de la procureure de la République de Tours, les faits ont eu lieu le mois dernier. Les 5 agresseurs présumés sont entrés en contact avec leurs 2 victimes via une application de rencontre, leur ont donné rendez-vous et les ont violentés en les insultant. Le Rassemblement national dans le viseur de très nombreux présidents d'universités, l'association France Université dénonce l'intrusion inacceptable et sans autorisation, je cite, de 3 députés du RN sur un campus de Sorbonne Paris Nord, accusés d'avoir publié des vidéos après être allés vérifier sur place l'entrisme islamiste supposé de l'établissement.
Le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parle d'une page d'histoire à l'Assemblée nationale.
Ce jeudi soir, hier soir, les députés ont adopté la loi LFI qui propose de nationaliser ArcelorMittal dans un contexte de grandes difficultés pour la sidérurgie française. 127 ont voté pour, 41 contre. Le Rassemblement national s'est abstenu. Le texte a un avenir tout de même très incertain car il va devoir passer par la case Sénat à majorité de droite. Par ailleurs, le gouvernement est opposé à la mesure, estimant que la bataille se joue à l'échelle européenne. La pollution environnementale également à la une de l'actualité ce matin, car il n'y a pas qu'au bord des champs qu'on inhale des pesticides. Pour la première fois, l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, mission portée notamment par l'ANSES, a mené une grande étude nationale Pestiloge pour rechercher la présence de pesticides dans plus de 500 logements répartis sur tout le territoire, avec une analyse de l'air et des poussières. Résultat, des pesticides retrouvés dans la plupart des intérieurs, alors même que certains de ces produits sont interdits, Rémi Brancato.
C'est dans les poussières de nos logements que les chercheurs ont retrouvé le plus de substances. Dans 9 logements sur 10, on retrouve 5 fongicides, 4 insecticides comme l'acétamipride, ce néonicotinoïde interdit, mais aussi 2 herbicides. Le glyphosate, par exemple, interdit également d'usage pour les particuliers. L'air de nos logements contient aussi des produits phytosanitaires de façon moins récurrente. 4 pesticides relevés dans 8 logements sur 10. Parmi eux, le lindane, un produit pourtant interdit depuis plus de 25 ans, néfaste pour les organes, à des taux plus élevés que dans l'air extérieur. Il est très persistant. Les concentrations mesurées sont plus importantes dans les logements proches des zones agricoles. Impossible de dire toutefois si elles présentent un risque, nous dit l'étude, puisqu'il n'existe pas encore de valeur de référence. L'exposition pourrait être aggravée en cas de présence de vieux meubles ou de charpentes traitées par des produits désormais interdits. Les chercheurs appellent à bien nettoyer les surfaces et à aspirer les poussières pour limiter l'exposition.
À l'étranger, en pleine période de forte tension entre le Venezuela et les États-Unis, Donald Trump affirme que son pays va très bientôt commencer à cibler des trafiquants de drogue vénézuéliens dans des opérations sur terre et pas seulement en mer. Le président américain s'exprimait lors d'une conversation télévisée avec les forces armées pour Thanksgiving. Et puis c'est son premier voyage à l'étranger. Le pape Léon XIV entame sa 2e journée en Turquie, pays à majorité musulmane. Le souverain pontife participe participe aujourd'hui à une grande prière avec la communauté orthodoxe pour les 1700 ans du Concile de Nicée, événement fondateur pour le christianisme.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonne journée Anne-Sophie, rentrez vous mettre à l'abri car le temps s'annonce agité. Une perturbation arrive par le nord-ouest du pays, elle apporte des pluies sur la moitié nord, modérées, voire intenses par endroits entre le sud-Bretagne et les Hauts-de-France. Sur le reste du pays, c'est largement nuageux, ciel seulement voilé dans le sud au prix du Mistral et de la Tramontane qui souffle à 50 km/h. Cet après-midi, la perturbation envahira les régions du Poitou-Charente à la Lorraine en passant par le centre-Val de Loire et la Bourgogne. Un front froid et des pluies abondantes à prévoir entre la Vendée, la Touraine, l'Orléanais, le bassin parisien et les Ardennes. Ce temps laisse place à un ciel plus changeant. Les températures grimpent, mais elles restent contrastées. Attention aux gelées ce matin sur l'Occitanie, le Grand Est, la Provence et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Cet après-midi, on est proche de la normale. 6 à Lyon, 8 à Nancy, 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Lille, 11 à Paris et Toulouse, 13 à Marseille et Bordeaux, 14 à Brest, 15 à Biarritz et Rennes, 16 à Nice et Ajaccio et 17 à Perpignan.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de se déhancher ce matin dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Vous nous parlez de Destinée, et non, ce n'est pas la chanson de Guy Marchand.
Destinée, non.
On était, non. Le nouvel album d'Aya Nakamura, en fait.
Mais oui, No Stress, Badies, Désarmé, ces nouveaux morceaux sont partout, dans les voitures, en soirée, sur les plateformes d'écoute. 2 ans après son dernier album, Destinée d'Aya redéfinit le rôle, la place que tient Nakamura dans nos playlists, comme dans nos cœurs.
Je suis la capitaine de son bateau, mais bébé, toi je te laisse me piloter. T'es du genre à aimer tout commander. Monte à bord sans chavirer. À la base, je les mène tous en bateau. Il a mis son pied, son cœur sur moi déter. De mentir, j'ai cessé. Il faut cesser de faire semblant.
Et oui, il faut cesser de faire semblant,
oui,
Marion. Même avant les JO et son passage en oiseau de feu, vous vous souvenez, toute dorée sur le pont des Arts avec la garde républicaine. Et bien même avant ça, Aya Nakamura, depuis ça, elle règne seule au sommet des streams hyperstar pop. Aya réunit, rassemble, plus qu'elle ne divise, hein, ses trois dates, au Stade de France au printemps prochain sont déjà complètes. 240 000 billets vendus en quelques jours.
Wow.
Et ce nouvel album, son 5e, qui est sorti sous son propre label, est d'ores et déjà assuré d'être certifié au moins platine. Et oui, parce que il fallait, pour réserver sa place au Stade de France, commander aussi un CD destiné bien placé. Sans être tout à fait polyglotte comme le dernier Rosalia qui est chanté, vous savez, en 13 langues différentes,
oui.
Mais quand même, cet album parle un peu espagnol. Dans ce morceau-là, il y a un duo avec l'américaine colombienne Kali Uchis, mais aussi anglais avec le chanteur de Tottenham, J.O. Aya mélange le nouchi, hein, vous savez, c'est l'argot ivoirien,
oui.
Par exemple, vous savez, la chouin, ça veut dire la pute. Le verlan, il fait que de me tchèb, vous savez ce que ça veut dire?
Non.
Il fait que me brancher, me draguer.
Ah ouais, me chébran quoi.
Voilà, et on entend aussi le mot gitan dans Badies, je suis Sagadji.
Des attitudes de Badies, ça te dérange, tu m'as pas dit. Je le comprends, le Jacadji. C'est normal, je suis Sagadji. Je le domine, il donne tout, tout, tout. Avec moi, il est tout, tout.
On file dos avec Aya, ici avec presque un air de compas, cette musique aux racines haïtiennes, on dirait, non?
Mais oui, pour cause, elle chante ici avec le franco-haïtien, le champion du genre, joué douette filée, vous vous souvenez, 4 campés. Alors vous entendrez aussi dans Destinée du R&B très sensuel, ralenti même, des adaptations d'âme à piano, vous savez, cette house venue d'Afrique du Sud, du zouk love et du chata, autre genre venu de Martinique,
oui.
Et tout ceci au service de l'amour avec un grand A, c'est le grand sujet du disque. Aya parle d'abord de sentiments anesthésiés par des moments qui m'ont traumatisé. Je suis sensible et rancunière, pardon, mais dans quelles conditions? Mais surtout, Aya parle de rupture et de désir, de tout ce qui lui plaît chez un homme. Sa voix, visiblement, c'est important, la voix. Et sa carrure, faut avoir le cardio, je cite. Enfin, j'oubliais la touche dancehall, comme dans ce duo qu'on va entendre avec Shinsi, la Jamaican Queen, tout à fait jambe, c'est-à-dire qu'elle est fraîche, attirante, comme Aya. Nakamura, une chanteuse qui signe des temps et des streams. Elle dit son nom au début de tous les morceaux. Écoutez.
Je n'ai pas la langue dans ma bouche. Ton avis, j'en fais mon goûte. J'ai pas vibré dans cette aventure. Aventure, non, non. Quand je voulais, tu faisais de l'indiscours. Tu continues en vrai, t'as tout gâché.
plus te plaît, oui, cette énergie. Mon mec ou mon ennemi, d'après tes actes, mon ennemi. Je me rappelle quand tu bombais avec moi. Je le constate, je dormais avec le diable. Tu te rends compte que maintenant j'ai trop d'aura. Je n'ai pas la laine dans ma bouche.
Don't doubt you, I stick around just for you. No matter what you say, I'll do. Look at all the things I do. I give you loyalty and that's my truth. But it's never enough for you. Now baby, who hurt you? Who hurt you? Don't forget that I've been hurt too. What's the reason why you can't keep love? Got you believing everything he's up. Who for the right, not a one-time thing. Easy with time, but it's so hard.
Don't fit it right, don't fit it right. Don't fit it right, not a one-time thing. Don't fit it right, don't fit it right. Don't fit it right, not a fit it right, fit it right.
Aya Nakamura a retrouvé dans la playlist France Inter. Et vous, Mathieu Conquet, hello papy, mais qu'est pas ça ce soir à 21h?
Je remets le son avec les nouveautés comme Oxmo Puccino, Major Lazer. Il sera question, bien sûr, de Jimmy Cliff.
Bien sûr.
Et puis des morceaux qui parlent de téléphone. Et je remets le son. Allez, on se rappelle à ce soir.
À ce soir. 5h41 sur France Inter. Le grand reportage raconte la tournée atypique du groupe de musique Terre Noire. Sur les routes, depuis le début de l'année, les musiciens prennent leur temps. C'est le credo de ces deux frères originaires de Saint-Étienne, Raphaël et Théo. Avant chaque concert, ils passent plusieurs jours sur place et participent à des actions culturelles et des ateliers aux côtés d'associations. Une tournée à contre-courant, donc, que Victor Vasseur a suivi lors d'une étape lyonnaise.
Un tablier autour du cou et un éplucheur à la main.
Eh ben, je vais mettre sur la butternut.
Ils sont une trentaine autour d'une grande table. Nous sommes au Fétou, une cantine solidaire à Oullins, dans la banlieue lyonnaise.
Ouais, on est en train de préparer à manger, on est en train de faire un gros dalle lentilles.
Prendre le temps de se poser, modifier le rapport à la tournée et sa succession de concerts, Raphaël est comblé par ces rencontres.
Ça a changé complètement le visage de notre tournée. On a réalisé que la tournée, ça pouvait être des concerts en série qui avaient vraiment cette espèce de fordisme, une date, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et de toujours vivre comme un jour sans fin. Le moment du concert est toujours merveilleux, on l'adore, mais le reste de la journée, on pensait partir à l'aventure en devenant musicien, en partant sur la route, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de répétitions industrielles. Et ça nous a frustrés quelque part. Et donc on a décidé de vivre une aventure différente. Et pour nous, ralentir, ça voulait dire rencontrer les gens, découvrir les villes.
Comme à Tourcoing, Beauvais et Chambéry, les deux frères participent à des ateliers d'écriture et des tables rondes sur l'impact écologique d'une tournée. Ce rythme ralenti plaît à Théo, fatigué d'enchaîner les dates.
On est asséché par une tournée qui nous enlève l'imaginaire. Ici, là, on reconnecte à la singularité de chacun des lieux et des territoires que l'on parcourt. Chaque journée est différente, chaque rencontre est différente parce que la rencontre opère et la rencontre existe.
Ça vous revigore ?
Oui, tout à fait. On rentre de tournée le samedi matin ou le dimanche matin et on se dit que les rencontres ont changé un peu notre vie, ou du moins, elles ont changé notre rapport et au métier. Et puisque notre métier, quand même, c'est beaucoup notre vie, notre vie.
Et parmi ces rencontres, celle avec une chorale de Lyon, Victor.
La scène est placée au milieu des vestiges romains, exposés au musée Lugdunum de Lyon.
C'est beau quand vous mettez beaucoup de volume, hein, c'est magnifique comme ça. N'hésitez pas à chanter bien, fort.
Répétition générale avant un concert en toute intimité. Une centaine de spectateurs invités par des associations. Dans cette chorale, des retraités et des sans-abri comme Françoise, 62 ans.
Ça m'a fait du bien d'être à la chorale. Ça file une émotion et on oublie nos problèmes. Voilà.
Françoise chante à gorge déployée. Elle est dirigée par Sarah Léonore de la chorale du mouvement athée des Carmaux.
Je trouve que c'est indispensable et je trouve que tous les groupes de musique qui ont un peu de succès devraient le faire. Parce que c'est important de pouvoir être dans la transmission. c'est important de créer du lien entre les gens, parce que le métier du musicien, c'est de créer du lien entre les gens. Je pense qu'on leur donne de la légitimité et une reconnaissance qui est autre que celle du grand public qui paye pour venir en concert.
Cette chanson s'appelle « Jusqu'à mon dernier souffle ».
Partout en France, des chorales locales accompagnent Terre Noire sur quelques morceaux. Des moments suspendus qui vont marquer Raphaël.
On ne savait pas trop si elle allait marcher cette tournée, si ce qu'on avait imaginé, ça allait fonctionner. Et en fait, c'est un peu au-delà de ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr que ça va nous inspirer, en fait. Bien sûr que ça inspire non seulement nos chansons, mais notre manière, je pense, de penser notre métier à partir de maintenant. On ne peut pas continuer, de toute façon, chacune nos pratiques comme si rien ne se passait. On vit un grand moment de bouleversement, je pense, démocratique, culturel, écologique. Et donc, cette tournée, elle s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire dans un changement assez profond de ce pourquoi on fait les choses, tout simplement.
Terre Noire en concert d'ici la fin de l'année à Toulouse ce soir, puis Nîmes samedi. Il continue l'année prochaine.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Et à 6h moins le quart, il est l'heure de contacter notre invité déjà debout, salarié maraîcher à Arc-sur-Tille en Côte d'Or. Bonjour Gabriel Vaudrey.
Bonjour Marion Lourd.
Pourquoi êtes-vous déjà debout et en si bonne forme, j'ai l'impression?
Oui. Marion, en fait, c'est un peu mon horloge biologique. Donc je me couche tôt le soir et évidemment je me lève tôt le matin. Voilà, c'est une habitude.
Tôt, c'est-à-dire?
Souvent je suis réveillé vers 4h du matin. J'écoute France Inter, hein, j'écoute
évidemment
l'émission de... comment c'est la musique, nouvelle musique là, j'ai encore oublié le nom, qui passe le soir à 21h là. Voilà, et puis après, je vous écoute.
Mishka Assayas, vous voulez dire?
Pardon?
L'émission de Mishka Assayas.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
J'aime bien cette émission d'ailleurs. Voilà. Et après, je vous écoute vous ou votre collègue Mathilde
Munoz. Voilà. Et c'est aussi un souvenir de votre père qui vous fait lever tôt et de vos années comme paysan à ses côtés.
Tout à fait, oui. Oui, mon père m'a toujours dit que l'avenir des gens qui ont levé tôt, d'une part, mais aussi m'a toujours dit, quand je me suis installé paysan en 2004, il m'a dit: Gabriel, si tu veux gagner ta vie en étant indépendant comme ça, à midi, ta journée doit être gagnée. Et ça veut dire que le travail doit être fait le matin. Et l'après-midi, tu fais ce que tu veux. Tu vas faire des rencontres, voir des gens, visiter, faire tes courses, autre chose, quoi. Faire des démarches administratives. Mais ton travail principal doit être réalisé à midi, quoi.
Et vous avez suivi ce conseil?
Oui, bien sûr, oui. Je pense que c'est le bon sens paysan.
Vous avez été ouvrier, puis maraîcher à votre compte, c'est ce que vous disiez. Mais aujourd'hui, depuis le mois de juin, vous êtes salarié d'un maraîcher, c'est ça?
Voilà, tout à fait. De chez Laurent Boulbeau, à Arc-sur-Tille.
Et alors, quel est le travail en ce moment chez les maraîchers? Parce qu'on aurait tendance à penser que c'est l'automne, presque si l'hiver, qu'il ne se passe pas grand-chose.
Nous, si vous voulez, ce que je disais, notre saison, en gros, de travail, elle commence à peu près du mois de février et se termine au mois de novembre, en gros. On a à peu près 2 mois de repos, si on peut dire, qui sont décembre et janvier. Et encore, Laurent a des animaux d'élevage aussi sur la ferme, donc on a toujours de l'occupation. Donc en ce moment, si vous voulez, on est en train de rentrer des dernières cultures qui sont encore en plein champ, parce que Laurent ne cultive uniquement en plein champ, on n'a pas de serre. On a une serre, mais juste pour faire les plants de légumes et de fleurs au printemps. Donc là, on a encore les radis noirs à récolter, les navets à récolter, les carottes à récolter. On a encore les bases de culture à retirer, parce qu'on n'a pas tout arraché. On a notamment les derniers poivrons, là. Les plants de poivrons sont encore en place.
Ah oui.
Donc il faut qu'on retire les plants de poivrons congelés, et puis qu'on retire les bases de culture qui sont dessous. Mmh. Et après, on va mettre du fumier sur toutes les parcelles, de manière à préparer la saison 2026. Voilà.
Et donc pendant décembre et janvier, c'est quoi? C'est les grandes vacances?
Non, parce que donc avec Laurent est sur le marché de Dijon tous les mardis, tous les mardis matin, vendredi matin et samedi matin, au Quentin, à l'extérieur de Dijon. Donc on doit préparer le lundi et le jeudi les marchés. Et en plus, on travaille avec des restaurateurs sur Dijon et des épiceries. Donc on doit envoyer. Ce matin, j'ai déjà envoyé mes offres de promotionnel tarifaire pour la semaine prochaine, pour pouvoir proposer à nos clients les légumes de saison et intéressant en ce moment pour eux, quoi. Voilà.
Donc des particuliers et puis des restaurants,
des restaurants, des épiceries.
Oui. Et vous avez un engagement qui est très fort, c'est celui de l'écologie. Et ça, c'est même dans votre vie quotidienne.
tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez, moi, je me suis intéressé un petit peu à l'environnement par le côté alimentation, alimentaire. Et notamment, je me suis intéressé à l'agriculture biologique, qui, dans les années 90, était encore balbutiante. Et donc, j'ai été président de Nature Progrès Côte d'Or pendant 10 ans.
Mmh.
Donc,
je me suis rendu compte
voilà, qui a créé les premiers cahiers des charges bio en France. C'est la référence pratiquement en France.
Mmh.
Et depuis, je n'ai jamais arrêté, quoi. Et ensuite, quand je me suis installé paysan en 2004, j'ai commencé, comme je disais, ma transition écologique, bien avant qu'on en parle à France Inter et ailleurs. voilà. Donc,
vous avez fait la transition dans votre vie de tous les jours.
Voilà, tout à fait. Dans ma vie de tous les jours et aussi au niveau de ma vie professionnelle.
Mmh.
C'est-à-dire que ma première activité, ma première action, c'était de construire des toilettes sèches pour une association, un événement en 2003. Et depuis 2003, j'utilise que ça chez moi, les toilettes sèches.
Mmh.
D'accord. Ensuite, j'ai pris un abonnement chez Enercop pour l'électricité. Ensuite, j'ai travaillé les chevaux de trait, au lieu de remplacer le tracteur et les motomoteurs par les chevaux de trait. Ensuite, je me suis coupé de l'adduction d'eau. Donc maintenant, je consomme de l'eau en bouteille que je cherchais à une source 20 km de chez moi. Et puis j'ai un puits qui me permet d'alimenter mon eau pour la lessive, etc. Quoi.
Vous voilà. Êtes presque en autosuffisance, donc.
En autosuffisance. Et là, dernièrement, je viens de couper le compteur électrique. Et donc, je vais mettre en service 15 mètres carrés de panneaux photovoltaïques de manière à être autonome en électricité.
Et ben, bravo, voilà. Gabriel Vaudrey. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce Déjà Debout. Ce n'est pas la première fois, donc on va peut-être se retrouver encore d'ici quelques mois, quelques années. Merci beaucoup d'avoir participé et bonne journée à vous.
Merci Marion-Lou, bonne journée, au revoir.
5h50 avant de se plonger dans le café philo de la pop onirique, la mélopée, c'est le titre d'Ezekiel Paillès.
Parle-moi de ta voix, pareille à l'eau courante, lorsque c'est ralenti, le souffle des aveux. Dis-moi tes mots railleurs, et cruels si tu veux, mais berce-moi de la mélopée enivrante. De ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante, lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, ô mon harmonieuse et musicale amante. Ta forme est un éclair, ton sourire est l'instant. Tu fuis lorsque la paix. Les bras vides, ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir. Tu frôles sans étreindre, ainsi que la chimère, vers qui tendent toujours les vœux inapaisés. Rien ne vaut ce tourment, ni cette extase amère. Et moi j'écouterai ta voix et son doux chant. Je ne comprendrai plus, plus j'écouterai cherchant. Sinon l'entière oubli, du moins la somnolence. Car si tu t'arrêtais, ne fût-ce qu'un moment, j'entendrai, j'entendrai au profond du silence quelque chose d'affreux qui pleure horriblement. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, mais berce-moi de la mélopée enivrante. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir. Oh.
EP d'Ezekiel Paillès, un titre sorti en 2022.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de déguster notre café philo en bonne compagnie. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd, vous en êtes une autre de bonne compagnie.
Au programme ce matin, un manifeste cosmopolitique qui mélange philosophie et anthropologie.
Oui, alors en disant manifeste cosmopolitique, Marion, vous faites j'imagine référence à un livre que publie Philippe Descola, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Descola est aujourd'hui le plus grand anthropologue français vivant, dans la lignée d'un Claude Lévi-Strauss, qui du reste fut le directeur de thèse de Philippe Descola. Ce sont les Jivaros Achuar de l'Équateur et du Pérou qui ont poussé Descola vers l'anthropologie, lui qui avait d'abord commencé à étudier la philosophie, et sa réflexion est profondément empreinte des deux disciplines.
Et ce livre dont nous parlons, Patricia, c'est le fruit de nombreuses recherches et d'observations diverses. Il reprend d'ailleurs des sujets de conférences que son auteur a donnés dans le monde entier.
Oui, et ce qui est passionnant, Marion, c'est de constater que ce que l'on a pensé longtemps, la nature est universelle et la culture est relative, eh bien ça ne fonctionne plus. Cela ne peut plus correspondre à ce que nous vivons à l'heure actuelle avec le changement climatique. Bruno Latour, de son côté, n'a pas dit autre chose. Il faut changer de logiciel pour faire face à la question écologique. Bruno Latour, le plus célèbre et le plus incompris des philosophes, a dit de lui une journaliste anglophone. C'est lui qui avait relancé la fameuse hypothèse Gaïa. La Terre est un être vivant. La Terre n'est pas seulement donc un mouvement. La Terre est capable de réagir au comportement des humains. Des idées qui sont également développées par Philippe Descola. Du reste, les deux hommes se sont bien connus. Bruno Latour.
À mon avis, la désorientation dans laquelle les gens se trouvent avec la question écologique, le fait qu'ils n'arrivent pas à vite, disons, se réagir à une situation que tout le monde sait être catastrophique, je pense, est largement dû au fait qu'ils continuent à être dans le monde d'avant, donc celui où il y a des objets qui sont contrôlables par le calcul, disons, en gros, et des sciences, et surtout qui sont appropriables par un système de production qui nous apporte l'abondance et qui nous apporte aussi... le confort et tout ça, mais c'est pas le monde dans lequel on est maintenant. Plus personne maintenant ne peut dire, en parlant de questions de virus ou de climat, qu'il y a des sujets qui sont à distance du monde dans lequel ils se trouvent, puisque par une boucle de rétroaction qui est assez surprenante, l'action de ces humains-là crée pour les autres humains et pour lui-même des conditions de vie qui sont inhabitables.
Nous continuons à être dans le monde d'avant, dit Bruno Latour. Philippe Descola sera ce soir, Patricia, votre invité dans leur philo. Rappelons qu'il publie un livre intitulé « Politique du faire-monde, un manifeste cosmopolite ». C'est publié au Seuil. On a hâte de l'entendre à ce soir.
À ce soir.
Le vendredi 12 décembre, le France Inter Tour s'arrête à Poitiers. Venez nombreux au TAP, scène nationale de Grand Poitiers, pour assister aux émissions de France Inter. François-Régis Gaudry.
À 11h30, on va déguster.
Rebecca Manzoni. À 14h et 19h, l'actualité du cinéma et de la littérature avec les critiques du Masque et la Plume. Mathieu Noël.
16h-18h, Zoom Zoom Zen en direct avec toute la bande.
Le France Inter Tour à Poitiers, c'est le vendredi 12 décembre. Réservation sur maisondelaradioetdelamusique.fr.
5h58.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Du gris et de la pluie aujourd'hui, Céline Dacosta.
Un temps bien maussade pour ce vendredi matin sur les deux tiers nord du pays, avec un ciel chargé, des averses parfois soutenues entre les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, les Hauts-de-France et les Ardennes. Prudence dans le Val-de-Saône et en Alsace, où les brouillards pourraient être givrants. Pour la moitié sud, ce sera plus calme, un temps sec et beaucoup de nuages, mais les éclaircies seront encore présentes entre les Pyrénées et les Alpes. Pour les températures, le matin, 2 à 6 degrés pour la plupart des régions. Plus d'eau en Bretagne, où on atteindra par endroits les 10 degrés. L'après-midi, nette remontée du thermomètre. 7 à 13 degrés, 16 même près de l'Atlantique et en Méditerranée avec un ciel qui va rester gris sur une large bande centrale. Le sud conservera du soleil et les éclaircies reviendront près de la Manche, poussées par un vent d'ouest qui sera plus présent.
La météo de Céline Dacosta. Vous êtes bien sur France Inter et qui revoici pour démarrer ce 6-9 ? C'est Ali Badou.
Bonjour Marion Lourd.
Rebonjour. Alors au programme aujourd'hui.
À 6h20, votre invité sera Jean-Louis Dupré, président de la Fédération française des banques alimentaires. Les banques alimentaires qui lancent leur collecte ce week-end. À 7h45, dans le débat éco, 3 ans de ChatGPT, l'intelligence artificielle va-t-elle être une véritable révolution ? On en débattra avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, grand entretien avec Marc Lazare autour du populisme. Il est historien, professeur émérite à Sciences Po, l'un des grands noms de l'analyse des sciences politiques et l'auteur de « Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle », un livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Voilà pour le programme.
France Inter, il est 6h.